Bon après-midi à tous et à toutes. J'ai intitulé mon partage d'aujourd'hui, et je dis bien partage parce que dire que c'est une prédication, ce serait un peu excessif. Le texte que nous allons lire aujourd'hui est tellement évident, il est tellement clair et net, que prétendre le prêcher serait en quelque sorte lui faire violence. On va quand même l'examiner et tenter de faire quelques commentaires sur les enseignements qu'il nous donne. Et ce partage-là, il est intitulé « Vérité et certitude ». Ce ne sont pas des propos très populaires aujourd'hui, non plus qu'hier. Rappelons-nous ce que disait Pilate à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ?» La postmodernité n'a fait qu'empirer la chose. Je me souviens, lorsque Jean-François Lyotard et compagnie, enfin, toute l'armée des postmodernes se sont pointés, on disait « la vérité est plurielle ». Ça sonne bien, c'est beau, ça a l'air brillant, ça a l'air profond, mais c'est complètement contradictoire. Pour plusieurs, aujourd'hui encore, la vérité, c'est un concept métaphorique. On utilise l'expression pour vouloir dire certaines choses, mais la vérité, oh là là, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Ben, c'est un texte que nous avons aujourd'hui qui nous parle de vérité et de certitude. Jésus de dire, Jean 14, 6, on le dit ensemble, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous avons le Matthieu et nous avons la vérité. On veut dire que l'article défini vient de spécifier quelque chose d'extrêmement important. Nous avons la vérité en Christ Jésus. Nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir la parole du Seigneur, donc, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Nous allons faire lecture des versets 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Vérité et certitude. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que notre Dieu puisse bien vouloir bénir ces quelques propos à nos cœurs aujourd'hui à nouveau. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de cette série sur le livre de l'Apocalypse. Parce que ça peut devenir épuisant, n'est-ce pas? On a commencé en octobre 2022. On est bien en 2026-2022. Et ça se poursuit depuis. Et lorsque ce n'est pas séquentiel comme cela, c'est entrecoupé, ça peut devenir érodant. Ça peut devenir fatigant. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de cela. Ce n'est pas une série humaine, à vue humaine. On disait tout à l'heure, dans un 1 Thessaloniciens chapitre 4, on lisait un livre, je ne sais pas combien d'entre eux ont été dispensationalistes avant, là, mais on lisait un vrai chapitre pour les rapturistes. Hein? On va t'enlever, puis là, wow, et on lisait ça, les frissons un peu partout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, qu'est-ce que je vous disais? Je m'excuse, je suis un peu fatigué. Hérodé, voilà, oui, oui. Alors j'espère que ça ne vous fatigue pas. Ce n'est pas une série qui est excitante, comme le font certaines approches qui qui verse dans le spectaculaire avec toutes sortes de signes qu'on interprète littéralement. Cependant, c'est un livre porteur d'une grande bénédiction. Il faut se laisser rappeler. Chapitre 1, verset 3 nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. » C'est intéressant. Au cours de la dernière semaine, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne veulent pas lire l'Apocalypse, qui ont quelque chose contre l'Apocalypse ou qui sont en train de lire des livres sur l'Apocalypse de toutes les sortes, hein, parce qu'on le sait, il y a différentes approches. Nous vivons dans un monde hostile, je n'apprends rien, qui monopolise et nos pensées et qui monopolise aussi, bien sûr, nos énergies. Et ce n'est pas sans influencer notre manière d'écouter la parole. On vient à l'Église et on va entendre des propos pour nous aujourd'hui. On va entendre une parole qui va toucher ma vie d'aujourd'hui, qui va toucher mes toasts de ce matin. Hein, on vit quelque chose de très existentiel, c'est possible. Cependant, même si c'est tout à fait correct de vouloir des choses qui nous touchent, parce que la parole tout entière est faite pour nous, elle est faite pour nous toucher, il ne faut pas perdre de vue quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large, qui s'appelle les vérités fondamentales de l'Écriture. Alors, sans être des seekers friendly, sans être désireux d'adapter les cultes au goût du jour, c'est vrai que la prédication se doit tout de même d'être un peu interpellante, toujours interpellante, sans toutefois perdre de vue, encore une fois, son contenu profond. Souvent, les messages ressemblent beaucoup plus à des conférences qu'à des prédications. Bien sûr qu'il y a de l'enseignement dans la prédication. Hein? On parle toujours de didascalie et de parénèse. La didascalie, c'est l'enseignement, la parénèse, c'est l'exhortation. Pasteur Al Martin, qui est décédé tout récemment, avait des propos fort intéressants sur la prédication. Il donnait un cours sur la prédication, c'est assez intéressant. Il parlait de l'importance des illustrations. C'est toujours le combat le plus difficile pour un prédicateur de trouver des illustrations à mettre dans la prédication. Ce n'est pas tous les textes qui se prêtent facilement à des illustrations. Certains le font davantage que d'autres. Pasteur Martin disait, on peut avoir un très très beau bâtiment de béton armé sur un terrain solide. C'est un bâtiment que rien ne peut mouvoir. C'est un bâtiment d'une solidité absolument indiscutable. Cependant, la lumière ne pénètre pas dedans. C'est du béton. Vous voyez, solide, mais il n'y a pas de lumière. Oh! On peut avoir un bâtiment en verre. Ah, il est lumineux, il est tout en vitre, voilà. Et il n'y a que lumière dedans. Cependant, il est d'une fragilité indestructible. L'idéal, disait-il, c'est d'avoir un bâtiment en béton avec des fenêtres qui laissent entrer la lumière. C'est notre combat comme prédicateur, c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Et je peux vous dire que le pasteur Albert Martin, il avait le don là-dedans pour faire de bonnes prédications. Enfin, il était 50 ans pasteur à Montville, au New Jersey, vous savez, c'est pas petit, hein, 50 ans comme pasteur. Nous en sommes donc au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Et tout au long de ces messages, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je n'ai pas visé une série d'enseignements, mais on essayait de trouver des éléments d'enseignement, oui, mais à prêcher dans les textes que nous considérions, une suite de prédications dans ces textes-là. On va tenter de faire la même chose encore aujourd'hui avec ces versets que nous voyons, versets 5 et 8. Le but de ce passage, donc, ce n'est rien de moins que la nécessité d'une confirmation spéciale de la part de notre Dieu de ce que l'apôtre Jean a vu et de ce qu'il nous a révélé. C'est une réalité qui nous semble si loin de nous. C'est une réalité qui nous semble tellement contraire à notre expérience présente comme peuple de Dieu au sein d'un monde obscur. D'où l'insistance divine sur le caractère vrai, véritable, hein, et certain de ces paroles-là. Alors, On va considérer trois petites avenues pour se questionner sur ce texte-là. La première étant, qu'est-ce qui est vrai et véritable? Deuxièmement, quelle assurance avons-nous que ces choses sont certaines et véritables? Et troisièmement, pour qui ces choses sont-elles certaines et véritables? Rien de très compliqué. Hein? Tout comme le texte, tout en simplicité. Profond ce texte, mais tout en simplicité. Premièrement, il nous est dit, au verset 4, et c'est Dieu qui parle, « Je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles, car elles sont certaines et véritables. » Ces paroles sont certaines et véritables. Il y a une pléthore de causes qui ont cours dans le monde et certaines sont tout à fait recommandables. D'autres moins, mais il y a des causes, vous savez, pour lesquelles plusieurs y consacrent leur vie. Pas toujours des causes valables, mais des causes qui sont vues comme tellement importantes pour certaines personnes qu'on y consacre leur vie. On pense aux terroristes qui donnent leur vie pour une cause. Très mal interprétée, avec des vérités triturées, ils donnent leur vie pour ces causes-là. Et ça s'explique facilement, c'est qu'on n'a pas été créé pour être décoratif, mais on a été créé pour être actif. Si vous croyez être décoratif, laissez-moi vous rassurer, vous ne le serez pas longtemps. La beauté nous dit la parole, passe très rapidement. Enfin, on est écrit donc pour être actif. C'est la parole qui dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et nos actions dépendent de nos présupposés, dépendent de nos croyances. D'où l'importance de connaître la vérité. Connaître. Naître avec. Elle est tellement partie de nous qu'on est avec. Hein? L'importance de savoir au sens le plus profond du terme ce qui est vrai et certain. Et ici, Dieu est en train de nous parler directement pour nous dire « Je fais toutes choses nouvelles ». Comment devons-nous interpréter ces propos-là? « Je fais toutes choses nouvelles ». Verset 1 à 4 nous dit que les choses anciennes sont passées. Et au verset 5 à 8, nous voyons toutes choses nouvelles. Nous voyons Dieu qui demeure avec son peuple, Dieu qui console les siens, Dieu qui le protège. Et c'est ce que nous sommes, c'est là où nous en sommes au terme de ce long tour de l'histoire de l'Église et le livre de l'Apocalypse. Je fais toutes choses nouvelles. Je vais faire de nouveaux cieux et je vais faire une nouvelle terre. Une déclaration solennelle. C'est toute une déclaration. Une déclaration qu'on a besoin de comprendre correctement. Vous êtes-vous déjà arrêté là-dessus? À quoi ça va avoir l'air des nouveaux cieux et une nouvelle terre? Est-ce que ce sur quoi nous sommes en train d'habiter va disparaître complètement? Ça va descendre du ciel de quelle façon? Il y a beaucoup de questions pour lesquelles nous n'avons pas réponse et on n'a pas besoin de les avoir de toute manière. L'important, c'est qu'on sache véritablement ce qui va se produire. Donc, je fais toutes choses nouvelles, je vais faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout refaire. Comme on dit au Québec, va tout refaire flambant neuf. Hein? Comme si ça n'avait pas existé auparavant. Ce n'est pas ce que ça veut dire du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout refaire, donc, refaire quelque chose qui n'a jamais été utilisé. L'aspect nouveauté parle du, passez-moi la redondance, là, l'aspect nouveauté parle du caractère nouveau des cieux et de la terre, de la différence entre les créatures et les relations du monde présent. Et la différence sera telle qu'elle va au-delà de toute description de ce que nous expérimentons maintenant. Vous avez sûrement déjà entendu parler, entendu dire des prédicateurs qui vous disaient « Si vous voulez savoir ce qui va arriver dans l'au-delà ou dans la suite des temps ou dans l'éternité, faites aller votre imagination, surtout pas. » On fait surtout aller notre désir d'être renseigné par l'Esprit Saint, par sa parole, puisque l'Esprit et parole vont de pair. Il n'y aura plus cette recherche d'utopie, cette recherche de cette société idéale fondée sur l'éducation, les législations, les programmes de paix et d'environnement, toutes ces recherches qui, en quelque part, se veulent toxiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont tous, en quelque part, habitées par des natures pécheresses qui veulent les mettre de l'avant. Ces choses nouvelles sont donc des réalités, comme nous le dit 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Alors, on tombe dans les grandes choses, hein, dans les grosses affaires. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si on veut une comparaison, on peut peut-être penser à la nouvelle naissance. Quand on naît de nouveau, Dieu fait de nous des créatures nouvelles. Notre voisin nous reconnaît encore. Enfin, on l'espère. Il trouve qu'on a changé, mais il nous reconnaît encore. Je pense que ça nous dit quelque chose lorsqu'on pense à notre nouvelle nature. Lorsqu'on naît de nouveau, est-ce que Dieu nous fait complètement disparaître? Est-ce que Dieu nous fait retourner au non-être pour nous créer ex nihilo? À partir de rien. Au départ, on sait philosophiquement que l'être ne retourne pas au non-être. On n'abordera pas là-dessus. Dieu ne nous crée pas à partir de rien. Il n'est pas en train de faire un nouvel être. Il nous fait naître de nous. Il nous crée de nous. Nous pensons différemment. Nous interprétons différemment, nos affections sont renouvelées, nos passions sont redirigées, et vous pouvez continuer le catalogue. Sa nouveauté n'est pas superficielle, mais elle est intérieure et elle est éternelle. C'est un renouvellement d'intelligence. Le beau texte de Romains 12, ne vous conformez pas. Qu'est-ce que ça veut dire se conformer? Avoir la même forme qu'un. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, subissez une métamorphose, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. La nouvelle création sera en parfaite harmonie avec la gloire du Seigneur, le Seigneur du ciel. Et ça va infiniment au-delà de ce que l'œil a vu et de ce que l'oreille a entendu, comme on vient de le lire. J'aime beaucoup les paroles pétriniennes, les paroles de l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 3 à 8, qui nous écrit ceci. C'est tout un texte, d'ailleurs. Si vous avez besoin d'espérance, parce que, vous savez, comme croyant, on se remet en question. Nous étions dans une funéraille hier et on a une cousine Diane, qui a fait un très beau propos. Elle avait témoigné à une dame, etc. Puis quand ça se met à aller de travers, quand ça se met à aller comme on veut pas, ça arrive à tout le monde dans la vie. J'ai presque envie de dire que souvent de fois ça va plus mal, souvent de fois que ça va bien, hein, selon nos propres passions. Et là, elle se demande, est-ce que Dieu m'a abandonné? Le psalmiste se le demande lui-même, vous voyez. Au demeurant, on peut se demander, est-ce que je suis vraiment un chrétien? Quand on voit toutes nos difficultés et tout ce qui nous arrive, il y a des textes qui sont de grand réconfort. Il y a des gens qui ont peur qu'on prêche trop la grâce parce qu'on risque d'en abuser. C'est évident que les gens abusent de la grâce, ils abusent de tout. Le vrai croyant n'abuse pas de la grâce, mais il jouit. Est-ce que tu crois qu'il abuse de la grâce? Non. Non. Le vrai croyant n'abuse pas. On abuse de la grâce. On s'entend qu'on abuse de la grâce, mais on n'en abuse pas comme les non-croyants le font, qui se croient sauvés qu'ils ne le sont pas. Bien sûr qu'on est dans, on demeure des serviteurs inutiles, très loin de l'être à la hauteur de ce qu'on devrait être, mais nous sommes des êtres en devenir. Même lorsqu'on va arriver à la glorification, vous savez, on va être encore très, très loin de ne pas être des abuseurs de grâce comme croyants, mais on n'est pas des abuseurs comme les non-croyants. Donc l'apôtre Pierre de nous dire, 1 Pierre 1, 3, 8, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, amen. » qui selon sa grande miséricorde, ça veut dire quoi miséricorde? Miséricardia. Un cœur pour la misère. Dieu a eu un cœur pour notre misère. Qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est bien ça, non? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et il vous est réservé dans les cieux. Ouh! C'est encourageant, il n'y a personne qui va nous le voler. Hein? On ne sera pas hacké, dirait l'autre. Hein? Notre héritage, il nous est gardé dans les cieux. Mais il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on est capable de se rendre jusqu'à notre héritage qui nous est réservé dans les cieux? La question est extrêmement importante. Est-ce qu'on va faillir en cours de route? Est-ce qu'on va prendre une sortie? Est-ce qu'on va dévier de sorte que l'héritage reste là, non réclamé? C'est pas ce que le texte nous dit. Il ne sera cet héritage ni se corrompre, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, alléluia, oh, pardon, quel péché, gloire à Dieu, alléluia, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Or, c'est loin d'alléluia. Alléluia! Amen! Vous n'êtes pas allélouieux, un petit apport. Alléluia! Je suis perdu, ça. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans l'avoir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour le prix de votre foi. Certitude. Vérité et certitude. C'en est une pour nous qui croyons. Dans un deuxième temps maintenant, l'assurance que ces choses sont véritables. Vous savez, quand on prononce trois alléluia de suite, dans une église réformée baptiste, ce que personne ne sort, on dit qu'il y a un réveil. Alors, c'est bien ce que le Seigneur nous commande d'écrire, toujours au verset 5. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. On parle ici de la belle doctrine de l'inspiration de l'Écriture sainte. Hein? On sait que l'Écriture sainte, c'est majestueux. L'inspiration de l'Écriture sainte, on sait que ce n'est pas une dictée mécanique. Hein. Les gens que l'Esprit a pris à un moment donné, qui se sont mis à écrire mécaniquement, qui ne se contrôlaient plus. On sait non plus que ce ne sont pas des gens qui un jour se sentaient bien. Hein, il y avait une belle température, de bonne humeur, et donc aujourd'hui je me sens en forme, je me sens inspiré pour écrire. On sait que c'est le Seigneur lui-même, pour ne pas que son message soit distordu, c'est dit en français. Peut-être, on va le dire de toute manière, hein, qui est venu et qui a choisi des écrivains bibliques et qui a fouillé, passez-moi l'expression, dans leur thésaurus, qui a fouillé dans leur vocabulaire à eux, pour leur donner le bon choix de mots, afin qu'on puisse parler d'inspiration plénière et verbale. Hein? C'est pour ça que nous étudions l'Écriture, on étudie les langues originales, on s'efforce de comprendre les tenants et les aboutissants de toutes les conjugaisons, afin de mieux comprendre ce que Dieu a bien voulu nous révéler. Le mot « inspiré » d'ailleurs, hein, c'est un beau mot, « théopneustos ». Ce qui veut dire littéralement, c'est souffler hors de Dieu, théopneustos. L'Écriture est soufflée hors de Dieu. Elle nous vient de notre Dieu. Alors, c'est donc pas sans cause qu'on parle d'inspiration plénière et verbale. Dieu dit en effet, dans 2 Timothée 3,16, « Toute l'Écriture est inspirée, théopneustos encore, hein, inspirée de Dieu et utile. » Ça veut dire que l'écriture, c'est l'outil. Elle est l'outil. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour la justice. Elle nous vient de Dieu qui donne la vie. Un Dieu qui est à la fois l'alpha et l'oméga. On a multe raisons d'investir notre foi dans la parole de Dieu. Rappelons-nous les propos de notre confession de foi, la 1689. Ça vous dit quelque chose, là, Samuel et Alexandra, les gens qui étaient là la semaine dernière avec Brother Jim, l'homme du 17e, hein, ça vous dit quelque chose? C'était un bon cours, n'était-ce pas un cours formidable? Alléluia. Merci au Seigneur pour tous les dons qu'il donne à son Église et pour tous ceux qui font contribution de ces dons-là, effectivement, pour l'avancement de son peuple. Donc, confession de foi 1689, comme vous le savez maintenant, c'est la 1677. Hein? Elle était rédigée en 1689, mais était prête en 1677. Chapitre 1, paragraphe 5. Nous pouvons être mus et poussés par le témoignage de l'Église de Dieu à accorder aux Écritures saintes une haute estime toute empreinte de respect. De plus, le caractère divin du contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la cohérence de toutes les parties, le but de l'ensemble, qui est de donner toute la gloire à Dieu, le dévoilement qu'elle opère pleinement, qu'il y a un unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé et de nombreuses autres qualités incomparables. En un mot, sa totale perfection sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre d'un doute. Ce sont des arguments qu'on entend souvent, mais ce ne sont pas des arguments qui convainquent la planète. Et ce ne sont pas des arguments qui nous ont convaincus non plus. C'est pour ça que la 1689, en harmonie avec la parole de Dieu, ajoute ce qui suit. Néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son autorité toute divine proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec sa parole. Quel texte, oui. Les pères qui nous ont précédés, qui ont œuvré sur la rédaction de cette confession-là, ont fait un travail exceptionnel. Et certainement que l'Esprit du Seigneur était au milieu d'eux, et ça ne s'est certainement pas fait sans beaucoup de prières, sans des échanges, sans une recherche de la vérité dans notre Dieu. En bout de ligne, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène ultimement à cette conviction. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il le fait comment? Par la parole. Et ensuite, par le sentiment que nous en avons. Je crois parce que je crois parce que je crois. Avant cela, on demeure dans le même questionnement du serpent à l'égard d'Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Vous parlez aux gens que vous avez ici la parole de Dieu. C'est-tu vraiment Dieu? Hein? Non. On remet toujours en question l'authorship. Comment est-ce que ça se dit en français? Que Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. Oui, mais... le soi qui soit l'auteur, ouais, le mot ne vient pas, mais enfin, vous connaissez ce que je veux dire. Et c'est toute la différence entre ce que nous appelons des croyants temporaires et de véritables croyants. On n'a qu'à se rappeler la parabole des différentes terres en Luc 8. C'est toute une parabole, vous savez, que nous retrouvons en Luc 8. C'est la parabole des quatre terres. Surtout le verset 13 m'a toujours beaucoup frappé. Parce que, pour différentes raisons, parce qu'on fait des expériences avec ce verset-là dans notre évangélisation, quand on témoigne à des gens et qu'on se retrouve devant une déception très grande. Le verset 13 nous dit, il est très punch. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. On a déjà vu cela, hein? On partage l'évangile à quelqu'un, il la reçoit avec joie, on revient à la maison tout énervé. J'ai rencontré quelqu'un qui était ouvert à la parole, il est venu à Jésus, comme on a le coutume de dire, et là on est tout excité, puis la personne aussi, elle court les réunions et on n'en a jamais assez. Il y a une très grande excitation, mais c'est sur le roc. Il n'y a pas de racine, hein? Quand il y a besoin d'eau,
Ça peut pulvériser le roc. Alors ça court partout pour pouvoir se nourrir, s'humidifier, s'abreuver.
Oui. Et la parole nous dit qu'effectivement, lorsqu'arrivent les persécutions, les difficultés du monde, les croyants temporaires. Et la parabole se termine quand même par la bonne terre. Et elle porte du fruit. Verset 6, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu se tient à la fin de l'histoire. Dieu s'adresse à Jean au milieu de l'histoire. Et il est là pour déclarer un futur d'une absolue certitude au terme de l'histoire. Et il dit, c'est fait. Un mot intéressant, gegomen, pour ceux qui ont dit quelque chose, c'est un verbe au parfait, c'est le parfait de ginomai, qui veut dire, c'est déjà accompli, c'est déjà fait. C'est une déclaration de Dieu qui va complètement à l'encontre des expériences souvent confuses et chaotiques de nos existences. Hein. Les buts rédempteurs de Dieu sont d'une certitude inébranlable, tant et tellement que si c'est comme ça, ils avaient déjà pris place. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis le A et le Z, dirait en français. Et tout est inclus. D'ailleurs, ce n'est pas sans cause ce qu'il va dire par la plume du prophète Jérémie, chapitre 1, verset 12. C'est Dieu qui parle. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans un troisième temps, pour qui ces choses sont-elles certaines et véritables? Verset 6b, jusqu'au verset 8. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quels sont ceux et celles qui viennent à cette source de vie dont il est question ici? Le texte dit clairement, celui et celle qui a soif. Celui et celle qui a soif. Ce n'est pas pour l'incrédule. Ce n'est pas pour l'indifférent. Ce n'est pas pour le religieux. Ce n'est pas pour l'autosatisfait. C'est pour celui qui a soif. Ce n'est pas pour ceux et celles dont le trésor se trouve dans le royaume du monde, voyez, mais pour ceux et celles dont l'héritage, comme on le disait tout à l'heure, aurait été précieusement gardé au ciel. Ésaïe 55, verset 1 nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Jean chapitre 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le verset 7 ajoute que c'est pour celui qui vaincra. Alors celui qui a soif vient s'abreuver au Christ, vient chercher sa puissance en Christ et il devient vainqueur en Christ. Il devient tenant, porteur de la victoire du Christ. C'est pour celui qui triomphera du monde. Comment peut-on triompher du monde? Le monde est bien plus fort que nous. Ce n'est pas une lutte à force égale. On parlait des beaux dons tantôt, gloire à Dieu pour Van Til, qui nous a fait réaliser finalement que notre argumentation sur la base du monde n'est pas de calibre. Parce que le monde fait toujours passer le monde avant Dieu. Fait toujours passer l'analyse rationaliste avant Dieu. Oui? On a besoin de commencer avec Dieu. Véritablement, le monde a des argumentations qui ne viennent pas uniquement de lui. On sait que le monde est dirigé, le monde est inspiré, je pense que le terme vaut la peine d'être dit, on l'a vu tout au long de l'Apocalypse, par le prince des ténèbres. Bon, on n'est peut-être plus dans les possessions démoniaques qu'on voyait avant, parce que Satan est tombé du ciel maintenant, comme le dit Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples avec l'Évangile. Mais Satan a encore une grande puissance qui inspire le monde et qui fait sortir toutes sortes d'idéologies extrêmement confondantes, vous voyez. Ce n'est donc pas par nos propres forces, c'est pas par nos vertus, c'est pas par notre intelligence, c'est pas par notre stratégie, malgré qu'elles soient mises en cause, elles ont aussi leur importance, mais c'est pas ce qui va nous donner la victoire en Christ Jésus. Cependant, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La beauté de l'Évangile. On n'a tellement pas l'air de des gros réflecteurs. On a l'air de des petites chandelles presque en train de s'éteindre. Et pourtant, nous portons un feu de vérité. On pense souvent au tabernacle au désert. Quand les Babyloniens, ils avaient fait tout le groupe, ils passaient et qu'ils voyaient ces gens en train de faire du camping. Ils disaient, ah, regarde le royaume de Dieu! Ça n'avait pas l'air de cela du tout. Ça avait l'air tellement insignifiant. En comparaison de leur temple à eux, vous voyez. On n'a jamais été là pour le spectaculaire, pour ce qui frappe l'œil. Et c'est une erreur, pourquoi pour les évangéliques? Parce qu'on veut attirer les gens, c'est évident, on veut attirer leur attention de tomber dans toutes sortes de stratégies pour attirer les regards. On parlait tout au début d'organiser des cultes pour que ce soit savoureux, que les gens aiment ça. No way! Comme dirait le patriarche. No way! La parole de Dieu nous dit cela. C'est en Christ Jésus, par la foi. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui a l'air le plus insignifiant possible, mais qui a la foi en Dieu. Est un vainqueur du monde. Alléluia. Ça ne paraît pas toujours au travail. Ça ne paraît pas toujours lorsqu'on subit des injustices. Ça ne paraît pas toujours lorsqu'on passe deuxième, des fois troisième, puis des fois où on ne passe pas du tout. J.C. Ryle décrit. Oh, vous connaissez J.C. Ryle? Oh, J.C. Ryle. Oh, quel bonhomme, hein, l'évêque anglican qui. Enfin, c'était à peu de choses près, si vous avez lu sa vie, on va essayer de pas trop dévier, là, mais un des rares vraiment fidèles à son époque, hein. Il y avait beaucoup de libéralisme, mais lui, il était d'une rectitude. Oh. Il écrit les saints de Dieu à toutes les époques. Ont été des hommes et des femmes qui ont bu à cette source par la foi et ont été soulagés. Ils ont ressenti leur culpabilité et leur vide et ont eu soif de délivrance. Ils ont entendu parler d'une abondante provision de pardon, de miséricorde et de grâce en Christ crucifié pour tous les croyants repentants. Ils ont cru à cette bonne nouvelle et ont agi en conséquence. Ils ont cru et ils ont agi en conséquence. Verset 7 de poursuivre. Que c'est pour ceux et celles qui ont été faits enfants de Dieu, donc, par la foi en Christ Jésus. Au verset 8, on change complètement de registre. Il y a un beau mais là. Je ne sais pas si c'est un beau mais pour ceux qui suivent, mais pour nous, c'est un important. Mais! Pour les langes, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Nous avons donc ici une magistrale, et le mot s'applique, hein? Le mot magistral, ça vient de maître, ça vient du maître absolu. Nous avons donc ici une magistrale promesse de vie pour les croyants et en même temps une promesse de seconde mort pour les incrédules dont nous avons ici la nomenclature. Premièrement, nous avons les lâches, ces chrétiens nominaux qu'on retrouve dans l'Église. Cependant, ils aiment le monde, vous savez. Ils aiment le monde, ils aiment leur propre vie, ils aiment leur position, de sorte que lorsqu'ils sont menacés par les persécutions ou la tribulation, ils deviennent aussitôt infidèles. Viennent ensuite les incrédules qui rejettent ouvertement l'Évangile et s'opposent au Christ. Ce sont les abominables du chapitre 17, verset 4, qui sont porteurs d'une coupe remplis d'impureté et de prostitution. Selon notre texte d'aujourd'hui, ils sont abominables, meurtriers, débauchés, magiciens et idolâtres. Il nous est rapporté que leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Bon, la seconde mort, on le sait, c'est la séparation éternelle du corps et de l'âme avec Dieu. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. C'est la séparation éternelle de l'âme et du corps avec Dieu. Ça ne veut aucunement dire que Dieu ne sera pas présent en enfer. Dieu va être présent en enfer. Il va être présent dans son jugement. Alors, ce n'est pas un enfer laissé à elle-même qui risque de s'éteindre. Dieu va être éternellement présent en enfer dans son jugement. Et en dépit des avancées médicales, des recherches pour prolonger la vie et de toutes les promesses qui ont cours sur leur marché, un fait demeure, la vie est limitée, même pour la société occidentale qui tente de fuir la réalité dans le matérialisme. Il y a des gens qui meurent à 100 ans aujourd'hui. Tante, je ne sais pas trop qui, tante Jacqueline, maman, elle était au funérail de laquelle nous sommes allés hier, elle est morte à 100 ans, hein. Quelqu'un est mort à 105. On vit un peu plus vieux, mais on n'a pas encore dépassé les 120 dont le texte nous parle. L'existentialisme ne fournit aucune réponse aux grandes questions fondamentales de l'existence. Comment y échapper? C'est très simple. Il n'existe pas tout un carrousel d'opinions, hein, sinon, ou un carrousel d'options, sinon qu'en Christ Jésus, qui a été fait pour les croyants, comme dit un Corinthiens 1:30, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Pour être honnête avec vous, je me suis dit comment je vais appliquer ce texte-là. Peut-être que les frères et les gens vont m'aider. Puis peut-être qu'ils ne m'aideront pas. Hein. Jamais rien prendre pour acquis. L'application de ce texte, simple et clair, va de soi, évidemment. C'est une invitation sans compromis à une autre belle doctrine, la persévérance des saints, qui n'est pas un automatisme, mais qui est une réalité. Et c'est aussi l'incontournable assurance du jugement à venir pour les gens qui vivent dans le monde où les lois n'ont pas de dents. Le philosophe Søren Kierkegaard, je n'étais pas un grand maître de la philosophie, mais j'aimais beaucoup Søren Kierkegaard, parce qu'il faisait à certains égards penser à Van Til. Il était tout à fait contre la neutralité. Vous savez, il critiquait toujours les autres philosophes sur ceci. Il dit, les philosophes en général pensent qu'il y a un terrain, il y a une partie qui se joue, et eux, ils sont hors du terrain, et ils font les critiques. Ils oublient qu'ils sont également sur le terrain, qu'ils sont partie prenante de la joute. Il a parfaitement raison, vous savez. Enfin, on pense là. Il a écrit une parabole, vous la connaissez peut-être, c'est la parabole du canard sauvage. Je vous la lis. Un canard sauvage volait avec ses compagnons pour leur migration annuelle vers le nord. Pendant le voyage, il descendit dans une ferme d'élevage de canards domestiques. Il se délecta de leurs grains de maïs. Il décida de rester pour une heure, puis pour une journée, puis pour une semaine, puis pour un mois. Et finalement, Ayant pris goût à la vie facile et à la sécurité de la ferme, il y demeura tout l'été. Mais un jour d'automne, alors que la volée de canards sauvages se dirigeait à nouveau vers le sud, voilà qu'ils passèrent au-dessus de la ferme et leur compagnon entendit leur cri. Il fut alors saisi d'un étrange frisson de joie et de plaisir, et à grands coups d'ailes, il se leva dans les airs pour aller rejoindre ses anciens camarades dans leur voile. Mais voilà qu'il réalisa que la vie facile l'a rendu tellement mou et lourd qu'il ne pouvait pas aller plus haut que la corniche de la grange. Il est donc retombé à nouveau dans la cour et s'est dit en lui-même, « Bon, ma vie est sécuritaire ici et la nourriture est bonne. » Chaque printemps, chaque automne, c'est triste, hein? Lorsqu'il entendait l'appel des canards sauvages, ses yeux brillaient pour un moment. Il tentait de battre des ailes. Mais finalement, le jour est venu où les canards sauvages passèrent au-dessus de lui et firent entendre leur cri. Mais il n'y prêta même pas attention. C'est tellement une réalité qu'on voit au quotidien, dans les fausses conversions, dans les relâchements. Quand l'apôtre Pierre nous dit d'affermir notre vocation et notre élection, c'est une vérité tellement importante. La même chose peut arriver à quiconque commence à se satisfaire de ce que le monde a à offrir. On peut bien avoir l'intention de revenir avec le peuple de Dieu. On met ça plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vie chrétienne, c'est un engagement. C'est un engagement tel que je dirais que c'est aussi une rupture. C'est dire oui et non, c'est dire oui à Dieu et non au monde. C'est un engagement dans la foi sans possibilité de retour en arrière. En 1519, lorsque Hernán Cortés, lui on le connaît bien, hein, et les conquistadors, ont accosté sur la côte du Mexique à la conquête de l'Empire aztèque, quel est le premier ordre qu'Hernán Cortés a donné à ses troupes? Brûler les bateaux. Brûler les bateaux! Il s'en allait combattre une armée très forte et très grande. La crainte aurait pu prendre à certains pour retourner, sauter sur le bateau pour savoir voir maman. Vous voyez, non? On brûle les bateaux. Pas de retour arrière. Ainsi n'est-il lorsqu'on s'engage pour le Christ. Tout doit être brûlé derrière. On doit renoncer à ce qui est derrière. Si on a reçu la véritable foi en Christ Jésus, la foi qui persévère, la foi de celui et de celle dont la foi se veut le moyen, dont la foi se veut le moyen d'être gardé. Votre héritage est gardé à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardé par la foi. Notre marche en cette culture décadente ne se laissera jamais dévier. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes tellement reconnaissants pour ta parole. Et nous confessons d'emblée ensemble, sans hésitation, qu'elle est sûre et certaine. Nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Elle l'a fait dans la nuit des temps, elle va continuer à le faire dans l'éternité future. Tu es le Dieu de la vérité, tu es la parole. On te remercie pour ces quelques propos qu'on a sommairement sondés ce matin. Que ce puisse être pour nous des encouragements, ô Dieu, à travers tout ce qu'on peut vivre, parfois de tristesse, de déception, de remise en question. De savoir que tu es en train de nous peaufiner, de nous préparer pour ce grand jour prochain. nous allons recevoir toutes ces récompenses qui nous ont été mentionnées dans ces versets-là. Et on te prie aussi, ô Dieu, de faire une œuvre auprès de ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui se moquent de toi. Tout le monde sait que tu existes. Ta parole le dit dans Romains 1. Ils détiennent la vérité captive. Éphésiens 1, pardon. Ils détiennent la vérité captive. Mais tout le monde sait, Seigneur, que tu es là. Et tout le monde sait que son péché, c'est de ne pas t'avoir rendu gloire. Mais c'est une vérité qu'on garde captif. Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes à cœur de continuer à vivre cette parole-là, à la répandre, et que tu nous accordes également, ô Dieu Tout-Puissant, ton onction, afin que les paroles que nous prononcerons à autrui puissent également les interpeller et puissent les amener à venir s'abriter en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, pour leur salut et pour ta plus grande gloire. Amen.